Merci Anita. Donc, je donne tout de suite la parole à Bernard Minet.
Bon, je veux dire, c'est assez confortable de parler en dernier, parce que j'ai pu lire tout ce qui s'était écrit et ce qui s'est débattu ici, hein, depuis le mois de novembre, et donc je peux prendre ma place dans ce débat. J'ai d'abord été sensible à la suggestion faite par Jean-Jacques Gorog, qui a dégagé un processus de temporalité entre croyance, conviction et certitude. Et il a évidemment fort justement référé au fameux apologue, dit du temps de logique et de la certitude anticipée. Et Marc a pris aussitôt la balle au bond et vous a proposé, ce qui ne m'étonne pas parce que je sais qu'il avait travaillé déjà là-dessus il y a un an ou deux, il vous a proposé une mise en perspective borroméenne de ces trois concepts en référant croyance, conviction et certitude aux trois registres. Et surtout, il les a fait tourner. La croyance passant ainsi de l'imaginaire au symbolique et au réel, avec en conséquence de pareils changements de statut pour conviction et certitude. J'ai lu ça de près. Cela supposerait que ces trois termes désignent des fonctions du même ordre, hein, réel, symbolique. Donc ça supposerait que croyance, conviction et certitude désignent des fonctions du même ordre pour qu'on puisse les faire tourner dans ce petit manège lacanien. Or, j'y vois quelques difficultés. Puisque d'emblée, Jean-Jacques a introduit un processus temporel entre ces trois termes. Effectivement, dans le problème logique exposé par Lacan, on croit d'abord que l'on est blanc ou noir, sans aucune preuve, ce qui définit bien la croyance. Mais on croit surtout qu'on va s'en sortir. Et on croit que le directeur de prison a bien fait les choses, sinon on ne se lancerait pas dans une aventure pareille. Puis ensuite, en réfléchissant, comme une donnée de base que devant deux noirs, on peut avoir la conviction qu'on est blanc, hein, eh bien, justement, cette conviction ne viendra jamais. Quand même intéressant, puisque le directeur, vous le savez, a malicieusement mis les ronds noirs hors circuit. D'où la certitude anticipée, comme dit Lacan, après le temps de voir, puis le temps pour comprendre, et les fameux temps d'arrêt imposés par ce que les prisonniers observent, quand ils se voient avancer vers la sortie, hein, ce qui leur impose une révision de leur raisonnement, puisqu'ils s'étaient dit, si j'étais noir, ils l'auraient vu, ils seraient sortis. Justement, ils bougent. Donc, comme ils bougent tous, ça, ils doivent réviser leur raisonnement. Et à l'issue de ce processus, vous savez qu'il y a des pauses comme ça, chacun doit se précipiter dans la hâte pour dire la certitude qu'il a d'être blanc. Armando a eu raison de rappeler la fonction de l'objectita dans cette affaire. C'est-à-dire que pour que le raisonnement fonctionne, les trois prisonniers ne doivent pas se penser identique, hein, c'est pas trois identiques, mais se penser, comme dit Lacan, deux plus petit a. C'est-à-dire que A et B, réfléchissant de la même façon à partir de ce qu'ils observent de C, qui est réduit à l'objet de leur observation et de leur déduction, hein, Et donc, ils sont deux plus petit a. Mais Armando a rajouté fort justement que l'objet, c'est aussi le temps. L'objet athée ou athée, hein, comme on voudra, qui impose sa dynamique dans cette logique et qui précipite la croyance en conviction et concourt à la certitude qui déclenche l'acte après les tergiversations du sujet. Alors bien sûr, hein, on peut essayer, ça peut être fructueux, de situer croyance, conviction et certitude selon les trois registres que le nœud broméen noue. Ça a le mérite de donner à réfléchir sur ces trois termes. Mais puisqu'ils s'enchaînent dans un processus temporel qui les transforme l'un dans l'autre, personnellement, ça me paraît un peu compliqué de les situer de cette façon. Certes, le temps s'inscrit dans le nœud, puisque le nœud donne la structure du dire comme événement, et que c'est donc à un certain moment que le dire fait nœud. On pourrait d'ailleurs considérer dans l'apologue de Lacan que le dire qui s'énonce comme certitude fait nœud à la fin du processus, en prenant dans sa boucle l'imaginaire autant de voir et le symbolique autant pour comprendre. On serait alors amené à considérer que le dire comme certitude est une façon de faire le nœud à partir du réel comme moyen. Mais s'il y a quelque chose que j'ai retenu de Lacan dans sa façon de concevoir le nœud broméen et de le manipuler, c'est que le dire peut faire nœud de différentes façons. Et c'est ce que je vais exploiter. Et avant de l'exploiter, je vais vous démontrer. Voilà ici l'imaginaire, le symbolique et le réel. Eh bien, vous pouvez, c'est assez habituel, utiliser le symbolique comme moyen pour faire le nœud entre le réel et l'imaginaire. Mais vous pouvez, de la même façon, utiliser l'imaginaire comme moyen pour nouer le réel au symbolique. Et si vous n'en êtes pas convaincu, il reste le dernier, voilà, hein, où vous utilisez le réel comme moyen pour nouer l'imaginaire au symbolique. Trois façons de faire le même nœud. Hein, mon nœud, il n'a pas bougé, il est toujours le même. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer à partir de croyances, certitudes et convictions. Remarquez au passage que si la croyance témoigne d'une position subjective, tout comme la conviction, qui relève clairement de l'intime, j'ai l'intime conviction, la certitude en revanche, à moins d'être délirante, peut se passer de tout jugement subjectif. Elle se présente comme issue d'un raisonnement logique. Donc ces trois termes ne sont pas homogènes. Hein, chaque terme, d'ailleurs, a plusieurs acceptions, hein, que Anita a fait entendre un peu. Hein, croire que, ce n'est pas croire X ou Y, hein, ni croire à, ni croire en. Hein. Quant aux convictions, elles peuvent caractériser une position subjective, auquel cas elles sont de l'ordre des valeurs, hein, dont chacun peut se targuer, j'ai des convictions. Hein. Mais la conviction peut être aussi le résultat d'une soumission du sujet aux arguments de l'autre. Quant à la certitude, hein, elle peut être vérifiée, la certitude d'une mathématique, elle peut être anticipée, comme dans l'apologue, et elle peut être franchement délirante. Donc, arrêtons-nous un moment sur la croyance. Mes prédécesseurs dans ce séminaire n'ont pas manqué de le souligner, ils ont eu raison, la croyance est inhérente au processus de la parole. L'être parlant n'ayant pas participé à sa conception ni à sa naissance, il ne peut croire que sur parole celui qui lui attribue une identité. Et croyance et identité vont de pair. Dire « je crois », c'est affirmer quelque chose de son existence, de son identité, de son affiliation. C'est donc le sujet qui s'affirme dans ce credo, beaucoup plus que dans son créditum. Le créditum, c'est l'objet de la croyance. Le philosophe Clément Rosset remarque que la croyance est une opération qui, en fait, relie un sujet incertain à un objet indéterminé, puisque, par définition, l'objet de la croyance n'est pas un objet qu'on a sous la main. L'objet de la croyance, ce n'est pas un objet dont on peut s'assurer de l'existence. On croit. Donc ce n'est pas tant le sujet qui importe, pas plus que l'objet. L'important, c'est la croyance comme copule qui relie le sujet à l'objet. C'est pour ça qu'on y tient, à cette croyance, même si elle ne se réfère qu'à de l'incertain. Dans la croyance, le sujet s'affirme. On pourrait invoquer un credo simili cartésien. Credo ergo sum. Dans l'histoire, les exemples ne manquent pas d'autorités totalitaires qui s'attaquent à des credos indésirables. On torture les fidèles pour les faire abjurer. Remarquez que l'effet le plus notable, mais pas forcément escompté, c'est de susciter les vocations de martyr. Cette question du martyr, du fait qu'elle est toujours d'actualité, est importante pour nous dans la mesure où elle relève le lien de la croyance avec l'affirmation de l'existence d'un sujet, et ce, malgré la certitude qu'il peut avoir de son être mortel. On voit bien ce qui se passe avec les attentats suicides des jeunes islamiques radicalisés. Ils choisissent la mort. Il faut rappeler d'ailleurs qu'à l'époque des premiers pas de la chrétienté, il y a eu à Rome notamment un véritable engouement pour le martyr. Les gens se pressaient pour aller se faire martyriser. Ce phénomène n'est donc pas une spécialité de telle ou telle religion, ni même de telle ou telle époque, c'est un phénomène structural qui peut s'interpréter de différentes manières selon le point de vue qu'on adopte, religieux, sociologique ou psychanalytique. En fait, la question a été soulevée par Freud dans L'avenir d'une illusion. Freud considère que l'être humain est aux prises avec différentes nécessités qui ne s'accordent pas entre elles. Ils ne sont pas noués entre elles. Les nécessités de son corps, corps qui demande à vivre et à satisfaire. Les vicissitudes du monde qui peuvent lui être néfastes, les orages, les crues, les sécheresses, les famines, etc. Et les nécessités de la vie en société, qui, si elle permet aux hommes de s'unir contre l'adversité, restreint quand même la liberté de chacun à se satisfaire. C'est là que Freud avance que la religion est une façon d'accorder ces trois registres a priori incompatibles. Dans un premier temps, la religion nomme le danger réel en y voyant le signe d'une intervention divine. Dans un second temps, elle parie sur une possibilité d'amadouer ce réel devenu divinité en y faisant allégeance, par par une pratique religieuse essentiellement sacrificielle. À plus d'une occasion, Lacan a souligné que Freud avait eu l'idée d'un nouage borroméen, sans nous dire explicitement où il envoyait la preuve. J'ai beaucoup cherché. Et je crois pouvoir vous dire que c'est dans ce texte sur l'avenir d'une illusion. En effet, c'est comme si Freud nous disait que la religion est une façon de concilier réel, symbolique et imaginaire. C'est ce que Lacan décrit dans le séminaire Les Non-Dupes. Il considère alors que l'amour divin est une façon d'accorder l'imaginaire du corps avec le réel de sa destinée mortelle. Autrement dit, il fait du symbolique le moyen d'accorder l'imaginaire du corps avec sa destinée mortelle. J'en conclus que la croyance religieuse serait alors le nœud lui-même, ou du moins une certaine façon de faire le nœud. D'où le côté indestructible de la croyance. Si la croyance est pour chacun une façon de nouer symbolique réel et imaginaire, on comprend que le sujet tienne à sa croyance. Et dans certains cas, qu'il y tienne plus qu'à sa vie d'ici-bas, s'il a la conviction qu'il pourra jouir d'une vie éternellement. Et c'est sans doute avec cette conviction que certains se précipitent dans le martyre. Si la croyance religieuse est une façon d'utiliser le symbolique comme moyen pour faire le nœud qui donne sens à l'existence, on comprend que l'athéisme ne soit pas la voie commune. Ça devrait pouvoir être l'issue d'une analyse. C'est en tout cas ce que Freud en attendait. Que l'analyse interprète cette illusion qu'est la religion. Lacan ne l'a pas complètement suivi sur ce point, puisqu'il a envisagé, vous le savez, plutôt le triomphe de la religion, remarquant que la science ne viendrait pas à bout de la croyance religieuse. Et on le vérifie aujourd'hui. Les avancées considérables de la science ne font pas reculer les croyances. Elles les alimentent, elles les radicalisent. Il m'arrive de temps en temps de recevoir des personnes qui ont une pratique religieuse rigoureuse, qui ne leur épargne en fait ni l'angoisse ni la dépression, et qui pensent alors que la psychanalyse pourrait être une issue à leur impasse. Et je m'aperçois assez souvent que la pratique religieuse, surtout quand elle est scrupuleuse, est une façon pour certains de faire un nœud qui ne demanderait qu'à se défaire. Et c'est particulièrement net quand il s'agit d'une personne qui s'est convertie, c'est-à-dire quand cette religion ne lui a pas été transmise dans le pack de ses identifications idéales. Ce qui m'apparaît problématique dans de tels cas, ce n'est pas tant la croyance religieuse en elle-même, mais plutôt ce dont elle témoigne, à savoir, dans ces cas-là, du rapport du sujet au signifiant de l'autre qui sont pris au pied de la lettre. Mais sans aller jusqu'à cette configuration extrême, la croyance religieuse de l'analysant, quand il apparaît qu'elle lui est essentielle, je crois, requiert de l'analyste une certaine prudence. Il ne s'agit pas pour l'analyste de chahuter ce nouage, mais plutôt, je dirais, de se faire la dupe de la confusion naturelle que l'analysant peut faire au départ entre la figure de Dieu et la fonction du sujet supposé savoir. Ce n'est qu'au cours de la cure que l'analyste verra s'il lui est possible d'amener son analysant à entrevoir la méprise du sujet supposé savoir. Bref, le psychanalyste n'a rien à gagner à contrer la croyance de son analysant quand elle est le seul moyen pour un sujet de soutenir son être au monde, de faire son nœud. Et pourtant, on peut se dire que si demande d'analyse il y a, cela implique que la croyance est perdue de son efficacité. L'instauration de la supposition de savoir dans le transfert n'indique-t-elle pas déjà que l'analysant a changé sa façon de faire le nœud? Bien, je le crois. Parce que ce que Lacan nous montre dans ce séminaire sur les noms du père, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire ce nœud essentiel. Il y a l'amour divin, dont je vous ai parlé, mais il y a aussi le nœud de l'amour courtois. Le nœud de l'amour courtois, il utilise l'imaginaire comme moyen pour nouer réel et symbolique. Et dans cette configuration, le sujet amoureux se persuade avec son imaginaire que l'objet aimé a toutes les vertus qui assureront une jouissance éternelle, bref, de quoi se consoler de la vanité des biens de ce monde. Et à ce niveau-là, c'est certain que Stendhal en savait quelque chose, parce qu'il donne exactement ce nouage-là dans un processus qu'il appelle la cristallisation. Je ne sais pas si vous avez lu ça, mais c'est assez délicieux. Il y a dans les mines de sel de Salzbourg un petit trou, et on jette dans ce petit trou un rameau de bois mort, et au bout de 2-3 mois, quand vous sortez le rameau de bois mort, les vapeurs salées ont condensé les petits cristaux et vous sortez un petit rameau recouvert d'une rivière de diamants. Et Stendhal appelle ça la cristallisation, c'est-à-dire que c'est effectivement avec l'imaginaire du beau qu'on s'imagine que ce rameau de bois mort, qui dit bien quand même ce qu'il est, c'est-à-dire un réel, a toutes les vertus d'une jouissance qui n'en finira pas. Donc, cet amour courtois, c'est encore d'une croyance qu'il s'agit, mais là, elle s'appuie sur l'imaginaire comme moyen. On pourrait dire que cette croyance concerne aussi le transfert, dans la mesure où c'est de l'amour qui s'adresse au savoir. Cette croyance institue le supposé savoir sans lequel le nœud du transfert ne s'établit pas. Le transfert, c'est une cristallisation, au sens stendhalien du terme. Toute la question, c'est bien sûr l'avenir de cette croyance dans le sujet supposé savoir au cours de la cure. Alors, s'il n'est pas question, et je crois que vraiment Lacan est ferme là-dessus, s'il n'est pas question de défaire ce nœud, il faut penser que la solution serait de faire le nœud autrement. Or, il ne reste plus qu'une seule façon de faire ce nœud. C'est d'utiliser le réel comme moyen pour accorder l'imaginaire du corps et le symbolique qui est l'appareil de la jouissance. Est-ce que ce nœud fait à partir du réel comme moyen, est-ce que ce nœud peut se fonder sur une opération de type croyance? Croire au réel, tout du moins pour les philosophes, c'est un contresens. La rencontre avec le réel conduit plutôt à l'incrédulité. on n'en croit pas ses yeux, hein, ou pas ses oreilles. Autrement dit, la rencontre avec le réel dissout la croyance. Alors, il se trouve que, travaillant en ce moment sur le mot d'esprit, je découvre que cette façon de faire le nœud en utilisant le réel comme moyen, c'est celle du mot d'esprit. Le mot d'esprit crée la surprise. Pourquoi ? Parce qu'il noue autrement le symbolique à l'imaginaire. Il bouscule le sens commun. En nouant par le réel de la langue, l'imaginaire au symbolique. Et l'effet de surprise est garanti. Lacan a pris très au sérieux le travail de Freud sur le mot d'esprit. Et vous vous souvenez sans doute qu'il a même essayé de l'inscrire dans le prototype de son nouage, qui est le graphe. Il s'est servi du mot d'esprit pour élaborer son graphe. Et puis après, il a fait du mot d'esprit un modèle pour le dire de l'interprétation. Eh bien, je pense depuis longtemps qu'on devrait pouvoir rendre compte de ce dire de l'interprétation selon le modèle du mot d'esprit à l'aide de la logique borromienne. L'interprétation doit démonter le nœud de sens dans lequel l'analysant est empêtré. Mais défaire le nœud est impossible. Il s'agit plutôt de proposer une autre façon de faire le nœud, et surtout, au passage, de faire entre-apercevoir le pas de sens qui est au cœur du nœud. Ce qui peut pousser l'analyste à se dire de l'interprétation qui prend le réel de la langue comme moyen pour proposer un nouveau nouage, c'est son écoute. C'est exactement le fait qu'il accepte d'incarner ce lieu tiers où les signifiants résonnent. La fameuse troisième oreille, d'après Theodor Reich. Est-ce une croyance qui pousse l'analyste à occuper cette place ? Claire Montgobert vous a rappelé que pour Freud, l'apprenti analyste doit avoir acquis dans son analyse la ferme conviction de l'existence de l'inconscient. Effectivement, le minimum qu'on puisse attendre d'un analyste, c'est qu'il ait fait pour lui-même la preuve de l'existence de l'inconscient. Et face à une preuve, la croyance perd sa raison d'être. Cette ferme conviction que Freud exigeait n'est pas de l'ordre de la croyance. Claire Montgobert nous invitait à l'assimiler à une certitude. Effectivement, si c'est la croyance qui participe à l'instauration du sujet supposé savoir au départ de la cure, la fin du processus qui implique le dévoilement de cette méprise conduit plutôt à la ferme conviction pour Freud et à la certitude pour Lacan. Pourquoi à la certitude ? Relisez « Méprise du sujet supposé savoir ». Dans la structure de la méprise du sujet supposé savoir, le psychanalyste, pourtant, doit trouver la certitude de son acte et la béance qui fait sa loi. Je m'aperçois en terminant ce travail que je n'ai pas dit grand-chose de la conviction. Je pourrais en dire un mot en la déclinant au pluriel, les convictions. Chacun a les siennes. C'est un jugement de valeur qui dépasse la raison, qui se passe de preuves. Et ces convictions ont plusieurs origines. La plupart du temps, c'est un héritage familial. Alors, le caractère surmoïque est évident. Le surmoi est un héritage qui dicte les choix de jouissance. Mais les convictions peuvent être aussi imputables, n'être imputables qu'au sujet lui-même, auquel cas elles relèvent de ce qu'on appelle sa vision du monde, c'est-à-dire son fantasme. On voit le monde au travers de la fenêtre de son fantasme. Mais ce qu'on n'aperçoit pas dans cette fenêtre, c'est ce qu'elle implique comme position jouissante. Il faut pour cela une analyse, et l'exemple rapporté par Armando à propos des confidences faites par un analysant de Lacan montre bien que ce n'est qu'au dernier moment de son analyse que le sujet cède sur son fantasme qui l'aveuglait sur sa jouissance. À bien y réfléchir, ce qui est au centre du nœud, ce qui est au centre du nœud, c'est ce fameux trèfle, vous allez voir là, le trèfle, il y en a un bout ici et un bout ici, vous voyez, 1, 2, 3, et au milieu, le trou. Et ce fameux trèfle, il enlace trois sortes de jouissances. Celle du sens, la jouissance phallique, et celle qu'il ne faudrait pas, celle qui ne devrait pas exister. Le nœud se caractérise par cet enlacement central trifolié. Et il me semble que cela dessine assez bien ce qu'il en est des convictions dont un sujet se soutient. Là où s'entremêle le sens qu'il donne à sa place dans le monde, la valeur phallique qu'il soutient et la béance entreaperçue du manque de garantie dans l'autre. On devrait donc pouvoir attendre d'une analyse menée à son terme que croyances et convictions aient été dévoilées dans leur fonction de justifier et de couvrir des choix de jouissance, et qu'elles aient donc perdu de leur nécessité, cette conviction et cette certitude, cette conviction et cette confiance, au profit tout cela d'une autre façon de faire le nœud, à partir de l'opération de certitude qui caractérise l'acte de l'analyste, lequel se fonde sur l'effet du réel qui contre la croyance, puisqu'il démontre cette chose incroyable qu'il puisse se dire quelque chose sans qu'aucun sujet le sache.